Bienvenue à toutes et à tous en ce jour de fête de Pentecôte. La grâce et la paix nous sont données. Esprit Saint, souffle de Dieu, toi qui murmures, qui décoiffe ou qui charrie. Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête. Tu as quelque chose de large et d'ouvert. Tout le contraire du renfermé, de l'étouffant. Tu souffles où tu veux, on entend ta voix, mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Nous restons debout pour louer le Seigneur avec la suite de ce poème que j'ai commencé à vous lire, qui est de Laurette Lepage-Boulay. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu souffles la vie et tu renouvelles la face de la terre. Tu aimes déranger ce qui est installé et tu ne cesses de relancer ce qui s'arrête. Tu ouvres portes et fenêtres, tu fais éclater les ghettos et quitter les nids trop douillets de la sécurité. Tu réveilles, secours, envoies, rassembles. Tu rajeunis ce qui est sclérosé et tu fais courir les boiteux. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu es le feu qui embrase. La braise qui couve sous la cendre, brise et tendresse, force et douceur, eau et lumière, puissance et souplesse, murmure et ouragan. Esprit Saint, souffle de Dieu, ce matin encore nous t'en prions, frôle-nous sur ton passage et emporte-nous. Alors, entre la volonté de Dieu et la confession de foi, nous chanterons strophe par strophe, une, puis deux, puis trois, puis quatre, le cantique 220 que donc je vous invite à préparer et que je prépare également. Écoutons la volonté de Dieu. Dieu s'éteira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde. C'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens. Tout peut recommencer, tout reste possible, car Christ est vivant. Sachons saisir ce que l'Esprit de Dieu fait monter en nos cœurs, la sagesse de Salomon, la foi d'Abraham, la fidélité de Moïse, la patience de Job, le courage d'Élie, la persévérance de Jérémie, l'enthousiasme de Pierre, l'espérance de Paul et par-dessus tout, l'amour de Jésus maintenant et pour toujours. Unissons-nous dans la prière d'humilité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas toujours répondre à la confiance de Dieu. Seigneur, tu connais notre égoïsme, notre égocentrisme, nos difficultés à nous mettre à la place des autres. Tu connais notre amour-propre, notre désir d'imposer notre point de vue, notre trop fréquente indifférence à la souffrance d'autrui et cette susceptibilité qui nous empêche souvent d'entendre derrière les propos blessants les appels à l'aide de nos frères et de nos sœurs humains. Mais tu le sais bien, Seigneur, nous avons un profond regret de ce manque de fraternité et nous savons que nous avons besoin de toi pour devenir tout simplement un peu meilleur. Nous t'en prions, Seigneur, oublie nos fautes, ne regarde que notre bonne volonté, conserve-nous ton amour et ta présence. Aide-nous à nous tenir droit, à nous conduire en humains libres et responsables. Aide chacune et chacun de nous à se conduire jour après jour aussi bien qu'il ou elle en est capable. Et ainsi, nous pourrons témoigner de ta présence et faire advenir ton règne. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Dieu fait grâce. Et lorsque le remords nous pèse, il allège notre cœur et nous délivre du tourment. Il nous libère, c'est sa paix qu'il donne, la plénitude de la vie, la joie pour nos âmes, l'amour, le bonheur. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Amen. Je vous propose d'écouter, et vous pouvez la suivre sur les feuilles que vous avez trouvées dans les recueils de cantiques, la confession de foi de la pasteure Laurence Berlot. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et à des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir le don de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume, donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. La parole que Dieu nous a donnée est un rendez-vous. Dieu nous a donné rendez-vous dans sa parole. Une parole écrite tout au long de l'histoire par ces hommes et ces femmes qui le cherchaient. Une parole échangée entre nous et commentée aujourd'hui dans cette église et dans toutes les églises. Cette parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Donne-toi à la parole, et tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu. Amen.
Alors nous lirons un texte donc de la Bible au chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe, les versets 18 à 23. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud. Les tireurs à l'arc à Toubal et en Grèce, aux îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils diront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande au Seigneur sur des chevaux, sur des chars, des chariots couverts sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sacrée. À Jérusalem, dit le Seigneur, comme les Israélites apportent leur offrande, dans un récipient pur à la maison du Seigneur. Et je prendrai aussi parmi eux des prêtres, des lévites, dit le Seigneur. En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur.
Et au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, pourtant j'avais répété, hein, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. »
Il y a 2 semaines, en parlant de la fête de l'Ascension, vous vous souvenez, nous avons scruté le ciel avec les disciples. Et comme les disciples, nous avons pris conscience que nous devions désormais vivre avec l'absence de Christ. À cette occasion, vous vous en souvenez aussi, j'ai parlé d'un moment de transition entre le temps de Jésus et le temps de l'Église. Ce temps dans lequel la fête de la Pentecôte nous fait entrer aujourd'hui. Mais avant de réfléchir un petit peu avec vous à ce rôle fondateur de la Pentecôte, et bien sûr au sens que cette fête peut avoir pour nous aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'histoire de la Pentecôte dans la tradition juive. En effet, si les disciples sont réunis ensemble ce jour-là, s'il se trouve à Jérusalem tous ces juifs venus d'ailleurs et parlant d'autres langues, c'est qu'ils sont présents, en particulier, même s'ils y demeurent, ils sont présents pour cette fête juive qui porte en grec le nom Pentecosté, qui veut dire 50, une cinquantaine. Car depuis très longtemps, cette fête juive est célébrée 50 jours après la Pâque. À l'origine, en fait, c'est probablement une fête cananéenne qui a été récupérée, reprise par les Israélites. C'était la fête des récoltes. Les Israélites l'ont reprise en l'appelant d'abord fête de la moisson, puis fête des semaines, Shavuot. Et ce nom, Shavuot, cette fête est déjà mentionnée dans le Lévitique. Mais au cours des siècles, on ne sait pas très bien quand, le sens de cette fête a progressivement évolué pour devenir, dans les derniers siècles avant notre ère, la fête du renouvellement annuel de l'Alliance. Cette même Alliance dont nous avons parlé la semaine dernière, quand nos catéchumènes ont confirmé l'Alliance de leur baptême. Et donc, alors qu'elle était à l'origine la fête des semaines, Shavuot, cette fête est devenue en hébreu Shevuot, la fête des serments, la fête des promesses. Ces promesses que l'on doit faire à Dieu en échange de la promesse d'alliance et de paix qu'il fait à son peuple. Et d'ailleurs, peu avant Jésus, ou peut-être même à la même époque, on sait que la communauté de Qumran avait fait de Pentecôté sa fête principale. C'était le moment du serment annuel par lequel ses membres renouvelaient leur participation à l'alliance de Dieu. Et au IIe siècle, après Jésus-Christ, un traité juif affirmera très clairement « La Pentecôte est le jour où la loi fut donnée ». Bon, voilà pour l'histoire de Pentecôté, fête juive. Cette fête pour laquelle, à l'occasion de laquelle, tous ces juifs pieux de tant de langues maternelles différentes sont présents à Jérusalem. Et puis, bien sûr, il y a une autre histoire qui se mêle à la première. C'est une histoire linguistique, une histoire de mots et de traductions. Roi, ce mot de la Bible hébraïque qui signifie à la fois le vent et le souffle de Dieu. En hébreu, roi est un nom féminin. Alors, dans la Septante, l'Ancien Testament traduit en grec dans les derniers siècles avant Jésus, ce mot hébreu féminin, roi, a été traduit par un mot grec, ni féminin ni masculin, un neutre, un nom de genre neutre, un nom qui respecte totalement son sens, un mot que vous connaissez tous, pneuma, le souffle, pneuma. Ça se termine par un A, mais c'est quand même un mot neutre. Et cette traduction permet de respecter le sens du mot, de conserver tout son souffle à la dynamique du divin quand elle se saisit de l'un ou de l'autre. Ou même ici, on va y revenir bien sûr, quand cette dynamique se saisit de plusieurs personnes en même temps. Mais Luc, lui, écrit directement en grec et il tient à préciser les choses. Le souffle qui s'empare des disciples n'est pas n'importe quel souffle. C'est un souffle saint, pneuma agion, toujours de genre neutre. Et ce mot grec, pneuma, a déjà un double sens, matériel et spirituel. Par exemple, dans l'évangile de Jean, en grec, quand Jésus parle d'adorer le Père en esprit et en vérité, le mot utilisé est aussi pneuma. Et c'est donc cette expression de Luc, pneuma agion, que trois siècles plus tard, à la fin du IVe siècle, Jérôme, en traduisant la Bible en latin, du grec, la fera passer au masculin. Il la traduira en latin par les mots « spiritus sanctus », l'Esprit Saint. Alors attention, ce n'est pas une trahison. J'ai vérifié parce que je m'inquiétais, je ne voulais pas vous dire trop de bêtises. Ce n'est pas une trahison, Jérôme n'avait pas tort. Le premier sens de « spiritus » était bien celui de « souffle, vent », comme celui du mot grec « pneuma ». Mais on le sait, on le sent, le mot a très vite perdu ce premier sens, progressivement. Le glissement de sens est venu avec le temps, quand le Saint-Esprit peut-être s'est un peu essoufflé dans l'Église. Et que l'expression « spiritus sanctus » est devenue une formule rituelle utilisée pour personnaliser la troisième composante de la Trinité. Alors bien sûr, au moment de la Pentecôte, les apôtres ne peuvent pas se douter de cette future évolution linguistique. Et vous vous rappelez que les apôtres sont de nouveau 12, puisqu'à la fin du premier chapitre des Actes, Luc raconte qu'ils ont choisi, par un tirage au sort, ils l'ont choisi, Matthias, pour remplacer Judas. Et dans ce lieu fermé, ils sont sans doute réunis avec beaucoup d'autres personnes, peut-être des disciples d'avant la crucifixion, ou peut-être même déjà quelques nouveaux croyants. Et voilà qu'il se produit cet événement violent que Daniel Marguera, vous m'avez déjà entendu citer ce nom, surtout ces dernières semaines, que Daniel Marguera appelle un phénomène audiovisuel. Audio par la parole et visuel à cause des langues qui semblaient de feu. Cet événement, on peut le comprendre ou essayer de le comprendre de différentes manières. Et je suis sûre que tous ici, nous nous sommes souvent demandé ce qui s'était vraiment passé à la Pentecôte et ce que ça voulait dire. Alors, en allant de la compréhension la plus négative à la plus réceptive, disons, de ce texte, on peut voir différentes choses dans cette scène. On peut y voir un groupe en transe, un phénomène d'hystérie collective, peut-être non violent, mais quand même assez inquiétant. Ou bien un phénomène plus positif, une expérience d'extase collective, une joie débordante qui s'exprime entre autres par des sons ou des paroles qui n'appartiennent à aucune langue connue. Ce phénomène qu'on appelle la glossolalie, parler en langue. Et ce phénomène sera assez fréquent dans les premiers temps de l'Église. Paul en parle souvent, et quelquefois avec une certaine retenue. Ou encore, on peut y voir des prières spontanées, pas forcément incontrôlées, des prières faites de répétitions, de cris, de supplications et de cris de joie. Et bien sûr, on peut y voir tout cela à la fois, sans doute. Et je voudrais ce matin vous proposer même une petite interprétation complémentaire. Si je vous ai parlé si longuement, peut-être un peu trop, excusez-moi, de Shavuot, la fête des moissons, devenue Shavuot, la fête des serments, des promesses, ce moment où les Israélites devaient renouveler leur serment d'alliance, c'est que justement, je vois un peu dans cette scène de la Pentecôte le véritable renouvellement de cette fête des serments, un renouvellement complètement inattendu. Un renouvellement à l'opposé du renouvellement codifié par les rituels. Un renouvellement que l'on peut voir et entendre. Un renouvellement dans la spontanéité et la liberté. Spontanéité et liberté qui, on le sait, disparaîtront très vite, bien sûr, dans l'Église constituée. J'en ai parlé à la fête de la Réformation. Nous découvrons le renouvellement de l'Alliance. En fait, nous le voyons manifesté par des personnes qui ne sont pas encore, même pas encore nommées, parce qu'ici, pour l'instant, ces personnes n'ont pas d'importance en tant qu'individus. Bien sûr, elles sont des individus, des personnes. Chacune reçoit sa langue de feu. Chacune vit cette irruption du souffle saint, de manière individuelle. Mais en même temps, ils le vivent déjà ensemble, de manière collective. Et c'est ce souffle qui les transforme déjà en une véritable communauté. Par cette effusion de joie vécue ensemble, par leur expression libre et spontanée, ils sont déjà les témoins de la nouvelle alliance. Ils vivent le véritable renouvellement de l'alliance. Ce que Thomas d'Aquin appellera la loi de l'esprit de vie. Je le cite. À la fête de la Pentecôte, où fut donnée la loi ancienne, succède la fête de Pentecôte, où fut donnée la loi de l'esprit de vie. Alors, bien sûr, leurs paroles sont encore adressées au peuple juif. Il n'est pas question, même en des langues multiples, il n'est pas encore question de s'adresser aux non-juifs. Ça viendra au chapitre 10. Mais ce sont des paroles très différentes, non codifiées, des paroles spontanées. Ces croyants, regroupés autour des 12 apôtres, vivent une expérience spirituelle qui, d'une certaine manière, n'est pas complètement différente de celle du dernier Ésaïe, celle que nous avons entendue en première lecture. Mais ce qui est fondamental et ce qui les différencie d'Ésaïe, c'est qu'ils vivent cette expérience ensemble, dans un cadre communautaire. Et Luc a tout à fait conscience de raconter un événement fondateur. Il veut nous montrer que l'Église est née par la volonté de Dieu, qui, à la Pentecôté, a renouvelé son alliance en remplissant les croyants de son souffle saint. Et qui leur a permis, en même temps, et c'est évidemment tout aussi fondamental, de se faire comprendre de tous. Parce que bien sûr, si cet événement est véritablement fondateur, c'est aussi parce que la foule en est témoin. C'est elle qui est composée de juifs de toutes origines et de toutes langues. Et par sa diversité, elle représente donc tout Israël. Et peu de temps après, Pierre va s'adresser à elle comme au peuple d'Israël. Et même si les apôtres n'en sont pas encore là, comme je l'ai dit, cette foule annonce déjà le caractère universel de la nouvelle alliance. Et s'il y a un événement, un élément miraculeux dans cette histoire, il est là. Des Galiléens en extase, des lyres dans leur propre langue, donc probablement en araméen, et tous les autres ont l'impression de les comprendre et partagent leur extase. En incorporant à son texte la liste de nationalités que nous avons entendue, Luc a voulu insister sur le fait que non seulement le message du Christ est universel, Pierre le redira aux assistants quelques versets plus loin, mais que le don du souffle saint est tout aussi universel puisqu'il permet de transmettre une joie nouvelle, y compris par des mots prononcés dans une langue inconnue. L'Église se crée ici et maintenant, au moment où l'Esprit Saint, le souffle qui s'est saisi de chacun et de tous, leur permet non seulement de s'exprimer, mais de se comprendre. Le même souffle qui s'était posé sur Jésus au baptême est venu susciter la naissance de l'Église. Une Église, et voilà qui nous concerne directement, une Église qui donc est universelle dès son origine, avant même de commencer son activité, son développement, et bien sûr, très vite, ses multiples trahisons humaines. On assiste simultanément à deux événements fondateurs. Le premier est celui d'une parole libre et spontanée, venue remplacer les serments traditionnels. Et le deuxième, c'est que la parole libérée de chacun est entendue, comprise par chacun, par tous. Et dans cet événement, Dieu est bien à l'origine de cette double libération. Par son souffle saint, il libère la parole et permet le renouvellement de l'alliance. Par son souffle saint, il permet à tous de s'ouvrir à ce que le texte appelle ses œuvres grandioses. Tous, nous les entendons dire dans notre langue, les œuvres grandioses de Dieu. Alors, pour terminer, comment réagir aujourd'hui? Comment participer à l'événement Pentecôte? Pour ma part, je refuse en fait un type de réflexion qui me semble ne conduire nulle part, une réflexion qui s'attacherait d'une manière ou d'une autre à la lettre de l'événement. Soit pour y chercher des incohérences qu'on n'a aucun mal à trouver, en disant « ça n'a pas pu se passer comme ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc. » Soit au contraire, pour essayer de reproduire l'événement, en cherchant par un prétendu exemple la justification de ses propres pratiques. Mais si nous regardons et écoutons l'événement Pentecôte comme un moment communautaire, libérateur et fondateur, fondateur parce que libérateur et communautaire, eh bien je pense que ça peut nous aider. Nous pouvons alors, à nouveau, prendre conscience que l'action dynamique du souffle saint, l'esprit de vie, cet esprit s'adresse à nous dans nos propres mots et notre propre culture, comme il s'adressait à ce premier groupe de croyants. Il nous appelle à vivre et revivre cette libération ici et maintenant, à notre manière, dans nos propres mots et dans notre propre culture. Il nous appelle à mettre en œuvre encore et toujours cette refondation communautaire pour que, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, avec les apôtres et avec les prophètes avant eux, nous puissions, nous aussi, dire et redire les œuvres grandioses que Dieu accomplit en nous par son Saint-Esprit. Alors, comme nous le disons à chaque Sainte Cène, mais je vois avec joie quelques visages, nouveaux visages parmi nous. Dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition, ni obligation pour participer au repas du Seigneur. Nous sommes tous invités. Ce n'est pas une Église qui invite, et bien sûr ce n'est pas moi. C'est le Seigneur lui-même. Il n'y a pas non plus d'obligation. Et on peut tout à fait se joindre au cercle sans prendre le pain et le vin. Et dans les petits gobelets, il y a aussi du jus de raisin. En passant simplement le plat de pain à son voisin. Et en refusant le gobelet si on le souhaite. Nous avions remis des chouquettes pour les enfants, mais comme il n'y en a pas, vous serez invités à vous servir après le culte. Maintenant, Seigneur, Père de Jésus-Christ, tout est entre tes mains. Nous avons préparé le repas, mais c'est lui-même qui le préside. La nourriture fortifie notre corps, le vin réjouit notre cœur. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi. Que ce vin nous donne la joie que tu veux pour nous, avec ton pardon et ta paix. Ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Par ton esprit, permets-nous de communier à ta présence parmi nous, afin que nous soyons unis au Christ et demeurions unis les uns aux autres. Alors, j'ai quelques annonces avant de passer la parole à Isabelle. Elle concerne le programme de la semaine, mais auparavant, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le déroulement de la Sainte Cène, tel que vous avez pu le vivre depuis aujourd'hui et peut-être dimanche dernier. Le conseil presbytéral est en train de réfléchir à la manière dont la Sainte Cène devrait se dérouler, et aux modifications souhaitables. Donc, dans un premier temps, il est question donc de passé, comme vous le voyez, au petit gobelet pour des raisons de prophylaxie élémentaire. J'ai entendu quelqu'un dire « bonne idée ». Oui, voilà. Ça n'empêche pas que des personnes puissent souhaiter s'exprimer à ce sujet de manière positive ou négative. Et donc, le Conseil presbytéral m'a demandé de vous demander de ne pas hésiter à faire part, à vous, leur faire part de vos impressions, vos souhaits, vos protestations éventuelles. Et la deuxième chose concerne les chouquettes qui sont réservées aux enfants qui étaient réservées par Vincent aux enfants pendant la Sainte-Cène. La question se posera sans doute et devra être résolue. C'est peut-être pas aussi dramatique, c'est peut-être plus anecdotique, mais devra être résolue. Faut-il ou non laisser les chouquettes sur la table de communion ou les offrir à la fin du culte? Ceci, bien entendu, va avec le problème toujours en réflexion dans notre Église de la communion des jeunes avant l'accueil officiel à la Sainte-Cène au moment de la confirmation. Donc, ces deux questions sont laissées à votre réflexion et n'hésitez pas à communiquer ce que vous souhaitez dire. Voilà. En ce qui concerne le programme cette semaine, demain de midi à 15h, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je le redis, et vous trouverez à l'entrée quelques flyers pour les personnes que ça intéresse. A lieu une rencontre déjeuner interreligieux, intercommunautaire sur le thème de la transmission. Donc, cette rencontre est organisée avec notre groupe œcuménique des chrétiens du Faubourg et le groupe interreligieux Cieux, qui concerne les 11e et 12e arrondissements, et devrait regrouper des personnes, trois communautés monothéistes et également peut-être d'autres. L'idée étant évidemment de garnir le buffet avec des choses que tout le monde peut manger, le mieux étant d'apporter ce qu'on veut manger soi-même évidemment, mais voilà, donc si vous venez, n'hésitez pas à apporter un petit quelque chose. Je serais effectivement très heureuse, et j'ai déjà eu quelques réponses positives qui m'ont fait plaisir, de ne pas être la seule à représenter la paroisse dans cet événement auquel peut-être le député du 11e arrondissement a promis d'assister. Donc je ne sais pas s'il tiendra sa promesse, mais en tout cas, je pars le 30 juin, il serait souhaitable que des membres du conseil presbytéral, ou en tout cas des personnes de la paroisse, puissent être présents. Et je veux bien aussi un petit peu d'aide demain en fin de matinée pour installer les tables. Voilà. Le problème c'est qu'avec ce genre de choses, en tout cas moi, je suis absolument incapable de savoir combien de personnes il y aura. Quelque chose entre 15 et 30, je suppose. Mercredi matin, il y aura au temple les obsèques d'un protestant qui n'est pas un paroissien, mais voilà. Et le soir, il y a le conseil presbytéral. Jeudi soir, à 20h, nous aurons, au deuxième étage ou au temple ? Au deuxième étage, une conférence débat organisée, enfin, où nous pourrons entendre notre ami Denis Guénoun, ici présent, même s'il est en train de se cacher modestement, baissant la tête, débattre avec Philippe Godin, qui est le directeur de l'Institut européen des sciences des religions, à propos du livre publié récemment par Denis, « Trois soulèvements ». Vendredi, il y a une réunion donc, de l'école biblique avec Dominique Hernandez et moi et Leïla Bacuet, qui participera à l'école biblique l'an prochain. Donc, cette réunion a lieu à 18h et elle sera suivie du dîner des JMJ, qui nous réunira, donc le groupe des JNJ, Dominique Hernandez et moi. Ce sera l'occasion pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré de faire sa connaissance de votre nouvelle pasteur. Et puis, je vais laisser Isabelle vous parler du culte de dimanche prochain.
Mais peut-être, avant de parler du culte de dimanche prochain, parler de la prédication d'aujourd'hui. Merci Catherine. Et aussi dire que finalement, les deux dimanches qui suivent, Catherine ne sera pas là, et qu'on la retrouve donc pour la remercier le 30 juin. Ça sera le dernier culte de sa mission qui a été tellement réussie. Et voilà, j'espère qu'on sera nombreux autour d'elle. Pour ce qui concerne le culte de dimanche prochain, 16 juin, c'est un culte nouveau au foyer de l'âme, je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu, ou en tout cas ça fait bien longtemps, qui sera animé par Sophie Schlumberger, qui est pasteur, bibliste et animatrice biblique. Donc ça ne sera pas un culte traditionnel, ça sera un culte où Sophie va proposer un texte biblique sur lequel elle va inciter tout le monde à participer et tout le monde à travailler. Il n'y aura pas, elle ne sera pas en chair, elle se déplacera à l'intérieur du temple en apostrophant tout le monde ou chacun sur une lecture, un travail, un échange, une participation sur un texte biblique que je ne connais pas. Voilà, je pense que c'est très passionnant. Ceux qui ont déjà participé à ces cultes disent que c'est totalement décoiffant. Donc j'invite tous ceux qui peuvent y participer à y venir. Voilà.
En tout cas, moi, j'ai assisté à un culte de Sophie Schlumberger que je connais et qui est, par ailleurs, même si ce que dit Isabelle, elle apostrophe très doucement. Et elle fait tout ça très en douceur et vous ne risquez pas d'être brutalisé ni bousculé. Par contre, vous risquez, ou plutôt c'est une chance, oui, n'hésitez pas à en profiter. Je pense que ce sera un très beau culte. C'est le moment de l'offrande. Nous prions. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande en signe de notre engagement à ton service. Amen. Je vous propose, pour accompagner notre prière fraternelle, un poème que vous avez déjà entendu, je crois que je vous l'ai déjà lu une fois, de Toki Miyashima, une réécriture du psaume 23. Et nous portons, en l'entendant dans cette prière fraternelle, toutes celles et ceux que nous confions à Dieu en cet instant, et aussi toutes les difficultés dans le monde, les angoisses qu'elles génèrent, les souffrances auxquelles nous avons quelquefois le sentiment de ne rien pouvoir. Unissons-nous dans cette prière fraternelle pour qu'elle nous donne la paix. Le Seigneur fixe le rythme de ma vie. Je ne me presserai pas. Il m'arrête et m'accorde des instants de repos. Il m'inspire des images de paix qui restaurent ma sérénité. Il me donne une tranquillité d'esprit qui me conduit sur les chemins de l'efficacité et il me guide dans la paix. Même si mon emploi du temps est chargé, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Son éternité et sa volonté assure mon équilibre. Il prépare au milieu de mes activités des temps de rafraîchissement et de renouvellement. Il oint mon esprit d'une huile de tranquillité. Ma coupe d'énergie et de joie déborde. Oui, l'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mes journées, car je marcherai comme le veut mon Seigneur, et j'habiterai dans sa maison pour l'éternité. Amen. Je vous propose de préparer le cantique 391 que nous chanterons deux fois, histoire de bien le chanter la deuxième, et de vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Prenons le temps de donner. C'est du pain pour l'affamé. Prenons le temps d'aimer et d'être aimé. c'est une grâce de Dieu. Prenons le temps de prier, c'est notre force sur la terre. Et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en nous la grâce de notre baptême. Le Christ ressuscité nous accompagne toute notre vie et l'Esprit, le souffle saint, nous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allons avec la force qui nous est donnée. Amen.